C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Libre la nation !
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
It's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir ! Il faudrait groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ?
Groupir !
Faut alors voir.
Et toc, remonte ton scribard, Lothar.
Mais si !
L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle émission de La Percée de l'Histoire. Et là, ce soir, nous sommes réunis en ce jour parce que les Avengers sont tous là, ça y est.
Ouais !
Les Avengers Rassemblement, nous sommes avec d'abord Gauthier.
Bonsoir, bonsoir Gauthier. Comment ça va ?
Et ben et toi, comment que ça va-t-il ?
Bah écoute, très bien, très très bien.
Alors, quoi de neuf ?
Oh bah écoute, plein de choses, hein, plein de choses. On a une heure pour en discuter, je crois.
Oui, bah, tout à fait, ouais.
C'est
pas mal dit, bravo. Je me tourne de l'autre côté de la table et nous avons Simon. Bonsoir Simon.
Bonsoir Thomas.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Très bien, merci. Alors ?
Eh bien oui, c'est pareil, je vogue vers de nouveaux horizons en Bretagne, mais je suis de retour, ça y est, au Mans. Quoi, qu'est-ce qu'il veut lui ?
J'ai baissé en fait.
Parce que je n'ai aucun retour. Je ne sais pas, je ne m'entends pas.
À côté, c'est...
Mais c'est pour ça que je... Bon, mais c'est pas grave, j'irai régler ça plus tard.
Si,
mais...
le casque, attends, tu es lequel ? Tu es...
Oh, tu sais, on verra ça, on a tout le temps du monde. Mais oui, pareil, je parlerai de ce que je fais maintenant. Ça y est, je m'entends. Ça y est. Oui,
ah oui. Bah ouais, comme, tu sais, suffit de demander. Et voilà, c'est bon. Mais que serait cette émission sans le grand, le magnifique Salouane.
Bonsoir
Salouane.
Unique.
Comment que ça va-t-il ?
Bah ça va, on est là, on est vivant.
Bah
il
oui,
fait beau. Bon, il fait froid, mais
ah,
il fait beau.
Non, mais alors, je sais pas si vous avez remarqué.
La météo là.
Eh.
On nous dit que c'est les réchauffages climatiques.
Ah, le Vladimir,
ouais.
Tout sceptique.
Nous sachons. Hein.
Moi, j'attends encore.
Non, hein. Vous savez quoi, hein? Il n'y a plus de saison.
Déjà, il n'y a plus de saison.
À bon entendeur.
Et c'est vrai que...
Qui a déjà vu de la grêle en avril, hein? Qui?
Personne, bah, hein, on peut le dire. Bah, ouais, bah,
non, mais en plus, il neige là, dans certaines régions.
Ouais, ça gèle, ça gèle. Ouais.
Mais ce matin, j'ai pris la voiture à 8h, il gelait. Voilà.
Bah, oui,
voilà. Fin de l'histoire.
Avant d'aller en vacances, pareil, j'ai dû gratter 2-3 fois le matin. Rendez-vous.
Notez que monsieur va en vacances. Hein.
C'est la percée de la météo ou quoi ?
C'est vrai que c'est un peu la météo ce soir.
Attends, mais bientôt la météo de l'histoire peut-être.
Allez. Oh, tu donnes de bonnes idées, toi.
Remarque, ça peut être des sujets de chronique, hein, parce que vous savez que le temps, la météo...
Le petit âge glaciaire, tout
oh là
ça.
Là.
Entre autres. Donc, voyez, messieurs, dames, nous sommes réunis ici pour la bonne entente. Le divertissement, bien évidemment. Mais que serait un bon divertissement sans ou avec, j'ai envie de dire, le journal historique, bien sûr. On va commencer par ça, messieurs, si vous le voulez bien.
Bien sûr.
Et Salouane, si tu es prêt et disponible,
oui.
Qu'est-ce qui s'est passé le 23 avril dans l'histoire ?
Eh bah, bien, pas grand-chose. J'ai retenu pas beaucoup d'événements.
Aujourd'hui, alors, on s'emmerde. Voilà, c'est à peu près ça.
Faut dire ça comme ça, ouais. Alors, il y a le 23 avril, pour commencer, 1616. 1616.
T'as dit 1606 ?
1616.
Ah, autant 1616. Pour moi. Autant pour moi.
Bravo.
Donc Shakespeare et Miguel de Cervantes.
Oh, quel accent.
Paradis des poètes. Mais je ne vais pas plus loin puisqu'on en reviendra, on y reviendra pour les naissances et les décès.
Oh, yeah.
Ensuite, nous avons 23 avril 1848. Élection à l'Assemblée constituante. Le 23 avril 1848 ont lieu les élections des députés à l'Assemblée constituante de la Seconde République. À cette occasion, les Français votent pour la première fois au suffrage universel. C'est la mort du suffrage censitaire, qui vient du mot « cens », qui désignait le montant minimal d'impôt à partir duquel un homme adulte avait le droit de voter. Avec le suffrage universel, le droit de vote, n'est plus soumis à des conditions de revenus, mais seulement de sexe ou de statut. Les femmes en sont encore privées, ainsi que les militaires pour des motifs de neutralité. Le suffrage universel amène à l'Assemblée une majorité conservatrice, les paysans ayant massivement voté pour les notables locaux. Cette modération apaise les réticences de la bourgeoisie à l'égard du suffrage universel. Et enfin, dernière date, le 23 avril 1896, Edison fait son cinéma. 4 mois après la première séance publique des Frères Lumière, le génial inventeur américain Thomas Edison donne une première représentation de cinéma aux États-Unis avec le projecteur Vitascope au Music Hall Coaster and Beals de New York.
Truc de dingue, merci beaucoup pour ces petits événements du jour. Et alors Simon, est-ce que tu peux nous énumérer toutes les naissances du jour?
Bien sûr, elles sont nombreuses, mais on va retenir que quelques-unes. William Shakespeare, ça vous dit quelque chose? Bah oui, forcément, oui. C'est cette grande personnalité qui est William Shakespeare est née donc le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon en Angleterre bien sûr. Il est mort au même endroit en 1616. On a également William Turner, un peintre connu également, que Gauthier peut-être doit connaître, l'expert en peinture de l'émission. Il est né le 23 avril 1775 à Londres et mort le 19 décembre 1851 à Londres aussi. Et puis on a Alphonse Bertillon, vous vous souvenez de ce petit...
La police scientifique.
L'inspecteur, c'est ça.
Souillat.
C'est ça, donc lui qui a fondé alors, ce qu'on appelait l'anthropométrie avec un système de classement de photos avec 11 caractères, bref. Lui, il est né le 23 avril 1853 à Paris et il est mort dans la même ville le 13 février 1914.
Merci beaucoup. C'est vrai que William Turner, à ne pas confondre avec Pirates des Caraïbes.
Oui, là, c'est un peintre.
Voilà, là, c'est un peintre.
Ni avec Afida Turner, mais j'osais pas la faire.
Non, mais là,
j'osais
pas la faire. Il a fait pas trop son métier, on ne dira rien.
Il a osé la faire.
Tiens, d'ailleurs, on a parlé des naissances, mais Gauthier, est-ce que tu peux nous parler des décès?
Eh bien, chose incroyable, on retrouve une troisième fois William Shakespeare dans cette petite chronique qui est...
Truc de dingue !
Évidemment, né le 23 avril 1564 en Angleterre, mais également mort le 23 avril 1616, également au même endroit, Stratford-upon-Avon en Angleterre. On a également la mort de Miguel de Cervantes, qui lui est né le 18 juin 1547 à Castille, en Espagne, et qui est mort un 23 avril également, 1616, qui a notamment participé à la bataille navale de Lépante contre les Ottomans en 1571, où il a perdu sa main gauche.
Ah,
voilà.
C'est embêtant, ça. Mince.
Mais heureusement qu'il était droitier.
Heureusement, bah après, je sais pas, tu vivais avec lui pour savoir cette information.
Bah, s'il a écrit Don Quichotte, c'est qu'il devait peut-être lui rester une main pour écrire.
Peut-être qu'il l'a fait écrire.
Ou alors il l'a écrit avec lui.
En tout cas, il s'est surnommé le manchot de Lépante à cause de ça, voilà.
Bah oui, petite, évidemment. Petite info. Et pour terminer ce petit journal...
Thomas, qui fêtons-nous aujourd'hui?
Oui, et ben en fait, la Saint-Georges.
Ah, mais non. Bonne fête à tous les Georges.
Cet officier romain a été martyrisé en Palestine au temps de l'empereur Dioclétien vers 305. Selon un remake, j'ai envie de dire, médiéval, d'abord du mythe grec de Persée et d'Andromède, et ensuite du combat biblique de l'archange Saint-Michel contre la bête de l'Apocalypse, Saint-Georges aurait terrassé, dit-on, le dragon en Libye pour délivrer une malheureuse princesse. Plus qu'une légende, il s'agit d'une allégorie du combat contre le paganisme. Vous savez, ces païens et les forces du mal. Cela lui vaut être le saint patron des chevaliers, figurez-vous. Et beaucoup d'ordres sont donc, ont comme chef spirituel bien évidemment, Saint-Georges. Bref. Merci beaucoup, messieurs, pour ce journal historique.
Merci à toi.
Nous nous retrouvons après une petite pause musicale où nous allons un peu parler de nos vies, tout ça. Écoutez, ça fait longtemps qu'on était tous réunis. Et en attendant, petite pause, on va s'écouter Merzerg, Bordeaux.
C'est ça, une découverte peut-être juste qui pour le festival Mythos qui était en Bretagne à Rennes. Et très sympa, c'est électrique, enfin électro, bref, électrique.
C'est électrique.
C'est électrique.
C'est électro, c'est électrique, bref. C'est particulier, mais ça, voilà, ça met un peu de pêche.
600 watts.
Voilà. Eh ben, écoutez, on s'écoute ça tout de suite immédiatement sur Radio Alpa.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Nous sommes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com pour ceux qui nous suivent sur Internet. Et vous êtes bien sûr la percée de l'histoire où nous allons ouvrir un petit volet. Qu'est-ce que tu deviens ? Voilà, c'est, on va l'appeler comme ça. Donc Gauthier, qu'est-ce que tu deviens ?
Pour sûr. Qu'est-ce
que ah, écoute, depuis la dernière fois, je crois que j'étais venu en vacances de février, si je ne m'abuse, fin février.
Oui.
Non, bah toujours à l'école de journaliste de Grenoble, au fin fond des Alpes. Dans une lointaine contrée.
L'Isère, ça va.
C'est dans l'Isère, ça va. L'environnement naturel est plutôt sympa. Non, au-delà de ça, l'école se passe plutôt très bien. Là, je suis rentré pour 2 semaines surtout au Mans, car je fais mon prestage. Voilà, j'ai raconté un peu ma vie, mais je fais mon prestage à Sablé-sur-Sarthe.
Qu'est-ce qu'un prestage, Gauthier ?
Qu'est-ce qu'un prestage ? C'est un avant-stage. C'est avant le stage. C'est
pour que les gens comprennent peut-être. Ouais.
C'est pour savoir si on est apte. En fait, pour faire simple, en fin de Master 1, entre le Master 1 et le Master 2, on doit faire un stage en presse quotidienne régionale, dont la plupart des personnes en école de journalisme reconnue font leur stage au Ouest France. Et avant ce stage au Ouest France, il faut savoir si on est apte ou pas à faire notre stage. Et donc, dans ce cas-là, on a un prestage de 2 semaines environ, la plupart du temps, soit vacances de février, soit vacances d'avril. Pour savoir voilà, si tout se passe bien, si on sait écrire des articles, si on sait se rendre sur le terrain, si on sait parler avec des gens
pour
caricaturer la chose un petit peu. Donc voilà, et puis le stage cet été de 2 mois en juillet et en août, qui est pareil au Ouest France de Sablé-sur-Sarthe.
Mmh. Et après, c'est quoi la suite
C'est Master 2, toujours à l'école de journalisme de Grenoble, spécialité donc presse écrite, si tout se passe bien, normalement ça devrait être le cas. Parce que c'est un petit peu sélectif, voilà. Et donc voilà, toute une année, on aura beaucoup aussi de concret, c'est-à-dire qu'on ira beaucoup en rédaction. Dès janvier, on a 1 mois de stage en rédaction, donc on est un petit peu plus libre. On peut faire de la presse quotidienne nationale, la presse hebdomadaire nationale, on peut retourner en presse quotidienne régionale. Voilà, on est un petit peu libre de faire ce qu'on veut. Puis l'été prochain, à l'été 2025, donc un stage de 8-10 semaines, comme on souhaite. Pour tout simplement rentrer dans la vie active, parce qu'à un moment donné, il faut quand même rentrer dans la vie active. Hein. Il faut,
Se
bouger. Et donc voilà pour le petit programme.
Ça sera à toi de démarcher les journaux pour rentrer dedans ?
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est surtout au réseau que tu te fais au fur et à mesure à la fois de tes stages, au fur et à mesure aussi des personnes qui s'occupent de nous à l'école de journalisme de Grenoble, qui nous donnent quelques contacts. C'est à nous de démarcher aussi les personnes qu'on ne connaît pas spécialement, envoyer des mails, appeler. En fait, ce qu'on fait au quotidien en tant que journaliste, c'est-à-dire appeler des gens, rentrer sur le terrain et puis leur dire je suis cette personne et j'ai envie de rentrer dans votre rédaction.
Justement, voilà. Sur le réseau, vu que tu dis que c'est donné en partie, certains par les formateurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi des fois un peu tout le monde qui se précipite sur les mêmes et du coup, il n'y a pas un peu des...
Sur la même rédac
typiquement, par exemple, si je suis formateur et je te donne le contact de quelqu'un, je le donne à votre promo, est-ce qu'il n'y a pas le risque que toute la promo, du coup, y aille et en tout cas, face à demain...
Non, parce qu'on a des profils très variés, je trouve, en école de journalisme. Alors déjà, il faut savoir qu'on n'est que 30 hein, dans la promo. On est une quinzaine à vouloir faire de la presse écrite, 7-8 à faire de la radio et 7-8 à faire de la télé. Donc déjà, okay, ça diminue ça, les possibilités. Et on a des profils très, très variés. J'ai des amis qui veulent faire de la presse quotidienne régionale spécifiquement au Ouest France, en sachant qu'ils ont potentiellement déjà un travail dans un an. D'autres qui veulent faire de la presse quotidienne nationale, d'autres qui veulent faire de la presse hebdomadaire nationale. On a aussi des idées, des pensées un petit peu différentes, ce qui fait que, évidemment, on ne vise pas toutes les mêmes rédactions. Hein. Il y en a qui vont viser plus, Libération et d'autres le Figaro, ouais. pour faire simple. Donc, pas spécialement. Généralement, c'est individuellement. On va voir nos enseignants et on leur demande est-ce que vous avez ce contact-là. Sinon, c'est via les stages, comme j'ai dit, qu'on a fait auparavant. Ce qui est la plupart des cas, en réalité, parce que quand t'arrives en école de journalisme, tu t'arrives rarement en école de journalisme sans avoir fait au moins un stage, parce que c'est très sélectif, donc évidemment, il faut de l'expérience.
Mais ce qui est bien, c'est que personne ne se marche dessus, du coup.
Non, honnêtement, je trouve pas qu'on se marche dessus. Il y a toujours une pseudo petite concurrence, évidemment, celui qui fera les meilleurs articles, c'est évident, ça, c'est un peu un secret de polichinelle, mais globalement, non, c'est assez sain, c'est une concurrence assez saine entre nous, il n'y a aucun problème.
Eh ben super, tant mieux en tout cas. Si
c'est
ça
vrai,
se passe
c'est
bien.
C'est vrai, tant mieux sur une promo de 30 en plus.
Oui.
Ouais, tout à fait, parce que parfois, ça peut mal se passer.
On peut être moins et avoir une ambiance un peu moins bonne.
Parce qu'apparemment, j'ai ouï dire que les journalistes sportifs, c'était vraiment un milieu très sélect, et du coup, ça n'hésite pas. Quoi. Ça n'hésite pas à se casser.
C'est particulier, le journaliste sportif. On dit souvent qu'il y a le journalisme et le journaliste sportif, pas dans le sens où c'est pas des journalistes qui font, mais dans le sens où c'est souvent assez particulier. Ouais. Et puis, c'est souvent des personnes qui adorent le sport depuis qu'ils ont 2 ans, 3 ans, et qui finissent par être journalistes pour vous raconter les événements. Et c'est vrai que c'est pas la même écriture, c'est pas les mêmes reportages, c'est pas la même chose que de l'actualité classique qu'on pourrait voir quotidiennement. Ouais.
Oui, parce que le terme journalisme, il est ce qu'il est, mais il est très vague aussi parce qu'il y a tellement de journalisme.
Il est reconnu comme très vague. D'ailleurs, un peu malheureusement, c'est parce que ça décrédibilise aussi parfois la profession. Mais bon, ça, chacun son opinion.
Affaire à suivre, donc. Mais on espère, Gauthier, que ça va bien se passer jusqu'au bout.
Ça devrait aller.
Si ça va, tout va bien. Et alors, toi, Simon, qu'est-ce que tu deviens ?
Bien sûr. Donc je suis depuis le 8 janvier à la SCOL, nouvellement renommée, puisqu'avant c'était la SCOL Radio. Maintenant, ils ont raccourci. Ça devient la SCOL depuis, quand on a démarré.
D'accord.
C'est la nouvelle identité du truc.
Chouette.
Ce qui n'est pas plus mal, que ça permet aussi. Parce qu'en fait, la SCOL commençait à être connue, donc ils ont dit tout le monde l'appelle la SCOL, on va dire la SCOL.
Fait comme les youtubeurs streamers qui raccourcissent leur nom une fois qu'ils sont connus.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Par exemple, Ponce. Je ne dirais pas son nom de scène avant, mais maintenant c'est Ponce, juste Ponce. Alors qu'avant, il y avait un autre mot derrière, qui était un peu indécent.
Ah, parce que je croyais que c'était Ponce Fleur, t'allais dire sur.
Non, c'est l'autre.
Au tout début, c'était Ponce Fesse.
Voilà, merci. Il a dit le mot indécent.
Après, il y a des termes, ça se comprend en fait, que les finalement.
Mais du coup, comme maintenant, il est beaucoup plus professionnel entre guillemets, donc Ponce, c'est mieux que Ponce Fesse. Quand c'est t'as ça. Une OP ou un truc démarche.
C'est vrai que tout de suite.
Salut, c'est Ponce Fesse.
Ça fait un peu.
Ouais. Comme Super Connard d'ailleurs.
Oui, qui s'appelle maintenant Cyril tout simplement.
C'est vrai.
Et donc depuis le 8 janvier, je suis là-bas, j'apprends plein de trucs autour de la radio, évidemment, que ce soit l'animation, l'écriture radio, la réalisation, la technique, bref, un peu vraiment tout le panel autour de la radio, et avec pour objectif, à terme, c'est de toute façon ce qui est le but de cette formation, d'avoir un boulot, ou en tout cas d'être intégré dans le milieu à la fin de la formation, et c'est pour ça que je suis actuellement en stage à France Bleu Maine. Coucou, je les embrasse, bien sûr, parce qu'ils m'écoutent, c'est évident.
Je les embrasse.
Bien sûr.
On est intimes maintenant.
Bien sûr, c'est évident, ils écoutent forcément Radio Alpa.
Ils ne savaient pas quoi faire à 20h.
Voilà. Et donc, ça se passe très bien, ça fait juste 2 jours là que j'y suis, et j'ai déjà beaucoup, beaucoup de trucs à faire, et donc c'est trop, trop bien, puisque j'apprends, j'ai la chance d'apprendre à côté de certains animateurs, certaines animatrices qui ont beaucoup d'expérience, en fait, sur France Bleu, c'est vraiment, ils ont pas mal d'expérience. Il y a notamment parmi eux Bruno Van Destick, qui est juste en face de mon bureau, qui, pareil, c'est le speaker des 24 heures, a une expérience complètement folle. Donc, trop bien, trop, trop bien, et au terme de ça, donc je devrais écrire un rapport de stage de 20 pages, en décrivant un peu tout ce que j'ai fait, tout plein de trucs. Et ensuite, vient les épreuves au mois de juin, dans la vingtaine de juin, où là, on va devoir passer plein d'épreuves pour certifier et avoir le diplôme ou pas, mais en tout cas, tenter d'avoir le diplôme d'animateur, technicien, réalisateur.
Ça vient vite, donc.
Ça vient très vite, et l'épreuve n'est pas si facile, parce qu'on doit écrire en 3 heures, je crois, un flash info, une chronique et préparer une interview. Ce qui est, enfin,
tout ça en 3 heures.
Tout ça en 3 heures, en vrai, ça se fait, mais c'est du taf. Ouais.
Ouais, d'accord. Et une chronique sur le sujet de ton choix ?
Ouais, le sujet est libre. L'interview ne l'est pas, parce que ce sera avec des invités qui sont calés à l'avance par la formation. Ça peut très bien, et ça a été un exemple qui nous a été donné, être la mère de Rennes, comme ça peut être, je sais pas, celui...
Tati Daniel.
Ouais, voilà, typiquement Tati Daniel, bon. Mais ça, c'est calé à l'avance. C'est pas nous qui avons ça à faire, donc c'est quand même un gros plus.
Oui.
Et l'interview, du coup, on devra la réaliser le lendemain avec nos questions qu'on aura préparées la veille, quoi.
Ok, voilà. Bon, sacré programme, donc.
Ouais, sacré programme, l'ambiance est bonne, en tout cas, à peu près, parce qu'il y a toujours aussi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le nombre ne fait pas forcément l'ambiance, puisqu'on a beau être 14, donc moins, il y a toujours parfois un ou deux éléments qui peuvent venir un peu perturber tout ça, mais ça se passe globalement très bien. Et puis voilà, la formation est vraiment cool, tout le monde est super motivé, donc c'est vraiment top.
Et quel est le but à terme
une fois les examens passés.
Alors les examens passés, le but à terme c'est d'intégrer, en tout cas pour ma part, peut-être le planning France Bleu, si j'ai pas l'occasion de pouvoir être pris en CDD sur France Bleu Maine, puisque ça dépendra aussi des missions qui me sont proposées. Et donc si j'intègre le planning France Bleu, ça veut dire que je peux faire du remplacement un peu partout dans toutes les locales, parce qu'il y en a 44 locales de France Bleu, pour y faire mes armes, voilà, et remplacer en cas de besoin les animateurs, les animatrices sur place, et voilà, et ça c'est pareil, c'est hyper cool parce que ça donne beaucoup d'expérience, mais c'est à condition évidemment d'être pris, puisqu'il y a quand même un peu de monde, mais beaucoup de demandes aussi, donc
ouais.
C'est un milieu où il y a pas mal de taf.
Ben oui, on imagine bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les années 90 de cet humoriste qui faisait des interviews, mais il était nul à chier. Je ne me rappelle plus de son nom. Les gens, voilà. Tu sais, ils posaient des questions à la con et je ne me rappelle plus de son nom. Je vais essayer de trouver ça pendant la pause musicale.
On va se pencher dessus.
Ben, enfin, tout ça pour dire qu'il ne faut pas faire ce que ce monsieur faisait, mais je vais vous dire son nom.
C'était un message à me faire passer peut-être.
C'était très drôle. Bah non, bah,
il me semble que c'est juste après ta prise de parole.
C'est justement ce qu'il faudra pas faire le jour du concours.
Prendrait pas mal, mais
D'accord.
Parce qu'autrement, bon, tu t'en sors bien. Ouais. Mais tu sais, le stress, tout ça.
Tu t'en sors bien.
Jamais,
tu t'en sors bien.
Bon bah ça va. Alors si je suis validé par Thomas, c'est bon.
Bah écoutez, moi après je ne suis pas juge.
Il y a un expert quand même, faut le dire.
Oui, c'est vrai. L'expert du plateau.
Ouais, bon, tu parles. On fait avec. Tu parles expert, oui. Une fois, j'ai oublié d'enregistrer.
D'ailleurs, tu enregistres là actuellement.
Oui, c'est bon.
Ouais, c'est bon.
Ah là, j'ai rien oublié.
Bah, nickel.
Et alors, Salouane ?
Oui.
Toi ?
Le grand Salouane.
Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ?
J'en ai déjà beaucoup parlé.
Oui, mais on va encore en parler.
Parce que c'est vrai que.
Parce que j'ai oublié.
Il a sorti 3 livres de ses
saison
activités.
La saison au Manoir de la Cour a recommencé depuis le 4 avril. On a eu le week-end d'ouverture le 6. Donc un très très bon week-end, on a eu beaucoup de visiteurs. Là on arrive à les vacances d'avril ont commencé depuis hier, donc on est ouvert tous les jours, beaucoup d'ateliers pour les enfants, beaucoup d'ateliers pour les familles, il y a beaucoup de médiations qui vont arriver, qu'on est en train de créer, notamment la nuit des musées, les journées de l'archéologie, des visites sur le terrain pour tout ce qui est peinture murale, fresque, etc. Donc beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Voilà.
Truc de dingue.
Ouais, non, c'est passionnant.
Ah, j'ai vu que votre programme était très riche. Parce qu'évidemment, vu que je suis à Sablé-sur-Sarthe, je dois m'occuper également d'aller
être bien informé
maintenant. Oui,
ça devient un microcosme.
C'est le meilleur endroit de Sarthe, quoi. Voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est très dynamique, le Manoir de la Cour, faut le redire, mais dans la zone, il y a beaucoup de trucs.
Vous faites feu de tout bois, j'ai envie de dire.
Exactement, c'est ça.
C'est un peu ça, quoi. Bon, eh ben messieurs, merci
mais
beaucoup.
À toi,
à moi,
que tu fais, à toi, Thomas, parce que tu nous poses la question.
Dis-nous tout.
Moi, toujours assistant pédagogique. J'en avais déjà parlé. Donc, le but, c'est d'apprendre le français aux élèves étrangers, voilà, qui arrivent en France. Ils ont obligation de scolarité, comme tout le monde. Mais bon, suivre des cours quand vous ne comprenez rien, c'est quand compliqué. Même plus compliqué que ça. Donc, du coup. C'est là que j'interviens.
Et parfois, on ne comprend rien en parlant français. Hein. C'est aussi possible.
Ah, tu parles d'expérience ?
Oui, avec des cours de maths qu'on a vécu, Gauthier.
Par exemple.
C'est un partout. C'est mérité.
Un partout,
c'est mérité.
Balle au centre. Et bon, pendant ce temps-là, ça se passe bien. Écoutez, bonne ambiance. Non, c'est bien. Ouais, c'est sympa, oui, ça se passe bien. Donc,
et là, t'es en vacances, actuellement.
Et bah oui, bah, vacances scolaires oblige. On se revoit le 6 mai, le 7 mai. Et puis après, on repart
combien
en
de
week-end.
Temps ouais, c'est ça, c'est 3 semaines de vacances au final.
C'est, mais j'ai entendu dire que dans certaines écoles privées, ils n'ont pas été cons. Ils ont supprimé le lundi et le mardi pour
ils
éviter
sont
de revenir.
La légende raconte que je ne travaille pas le lundi et le mardi. Hein.
Ouais,
vraiment une légende. Hein, c'est pas, je ne vais pas colporter de fausses informations.
Selon les rumeurs.
Mais donc voilà, je vais devoir retourner pour 2 jours. Sachant qu'en plus... Le mardi après-midi, ils nous ont foutu des réunions pédagogiques pour préparer l'année prochaine. Et t'as le prof de techno, il arrive et il me dit « Non mais de toute façon, on va pas se leurrer. On va partir en week-end après. On va être partout et nulle part en fait. On va faire n'importe quoi, on va rien retenir. » J'ai dit « Ben oui, je sais Stéphane, mais bon écoute, c'est pas moi qui fais l'emploi du temps. »
Allez, enfin, ça bon. C'est dit. Paf, allez,
ça c'est fait.
Un petit message à Stéphane. Hein. S'il nous écoute.
Mais bon, voilà quoi. Bon, tout ça pour dire que ça se passe bien. Et là, oui, bah, les vacances, j'ai été invité, fait une petite soirée samedi soir, super, avec le gratin de la ville. Et puis, ben voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah oui, grosse annonce. Enfin, grosse annonce. Vous avez, vous êtes au courant que nous avons publié un Reels là, récemment.
Plusieurs
d'ailleurs. Et donc, ces vacances-ci, comme nous sommes tous dans le coin, on va en profiter pour en tourner d'autres. Voilà.
Petite annonce comme exclusive.
Ça.
Ouais.
Donc, vous ça en
va,
aurez.
Ça va fleurir en mai, en juin vidéo.
C'est un peu
Reels,
ça.
Comme on dit, on devrait faire, si on le fait, des bonnes sessions de tournage, comme ça on aura de la bonne matière.
Et voilà, et tout ça, donc ça sera pendant les vacances, parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas émission, donc, puisque c'est les vacances. Voilà, vous avez tout compris. Bref, merci beaucoup messieurs pour ce petit tour d'horizon que chacun, qu'est-ce qu'il fait quoi ? Qu'est-ce que tu deviens donc ? Et nous passons à une petite pause musicale. Nous nous retrouverons tout de suite après avec Salouane qui nous a préparé. Mais alors, une petite chronique aux petits oignons, superbe. Salouane, si ça te convient, bien sûr.
Bah oui, oui, bah ouais.
Eh ben super. Ouais, bon.
Il a l'air.
Il a 10 secondes, voilà. Mais il a une chronique à faire, là, en l'espace de 3 minutes.
Allez.
En attendant...
Je vous ai déjà parlé du manoir de la cour.
Ah merde.
Bon, bref, papy va recommencer.
Ça fait 3 semaines, il fait la même chronique, il ne se souvient pas.
Oui, Salouane.
En attendant, on s'écoute The Last Day de Midnight Danger.
C'est une révolte.
Non, sire. C'est une révolution.
Je vous ai compris.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur la percée de l'histoire avec un petit cafouillage.
Pardon. Ah ouais,
bah, je me suis gouré de, comment dirais-je, de boutons.
Bah, personne s'en est
rendu. J'ai pas mis la virgule, j'ai mis le générique. Bon, bref, qu'importe.
Ce qui est une différence.
Bah, t'es viré, je crois. Hein.
Bah oui, c'est là, je vous dis au revoir. Je m'en vais maintenant. Hein.
Allez, bon, salut.
Au revoir. Je vous parlais d'un humoriste qui faisait l'interview décalée. Hein. Donc, il s'agissait de Raphaël Mesrahi.
Ah oui, d'accord.
Voilà, qui a notamment, je me souviens, interviewé Jean-Pierre Castaldi, qui
entre autres,
sorti de ses gonds. Bref, nous nous sommes écoutés The Last Day de Midnight Danger, le danger de minuit, et sans transition aucune, c'est l'heure. C'est au tour de Salouane de nous faire sa petite chronique. De quoi vas-tu nous causer ?
Eh ben, je vous ai préparé un petit quiz. On va.
Ouais, c'est le quiz. Ça.
Sur l'origine des mots, parce des qu'on utilise beaucoup de mots aujourd'hui en français qui viennent de partout dans le monde.
C'est vrai.
Parce que le français est une langue vivante, donc forcément au cours de sa vie, elle a beaucoup changé, évolué. Et elle a influencé, elle a été influencée d'autres langues européennes, mais aussi par beaucoup de langues dans le reste du monde. Alors des mots qu'on utilise aujourd'hui, mais pas des... En fait, il faut retrouver la langue d'origine du mot. Mais c'est pas des trucs style week-end. Tout de suite, on sait que c'est l'anglais ou vodka. Tout le monde utilise vodka, on sait que c'est russe.
Mm-hmm.
Donc ça, on laisse tomber. Pareil pour les mots en grec, genre les mots construits sur des mots grecs, genre démocratie, archéologie.
Donc là, en gros, tu nous donnes des mots vraiment français.
C'est des mots qu'on utilise aujourd'hui, qui ont une forme francisée, ou genre bureau. Et ben, on va essayer de retrouver son origine de base, d'où ça vient.
Let's go.
Cool.
Le premier, moustache. D'où vient le mot moustache ?
On doit donner la langue d'origine ?
La langue d'origine.
Oh.
Moi, je dirais espagnol. Ça sonne un peu... Moustache.
Okay, allez, super. On va aller à deuxième virée.
C'est ce mono.
Non, moustache, non.
Il ne va pas y avoir beaucoup de monde qui va rester à la fin, hein, non, si c'est ça.
Moustache.
Moustache.
Il n'y a pas du tout une origine latine, un peu ?
Forcément. Ça passe toujours latine, par le... Dans toutes les réponses que... Dans toutes les informations que je vais vous donner, ça passe forcément par le latin. Avant d'arriver dans sa forme francisée qu'on connaît, ça passe par le latin. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment la forme...
L'entre-deux.
Avant d'arriver au latin.
Du germain ?
Non.
C'est pas ça, en fait, à chaque fois. Oui, c'est que c'est pas bon. L'espagnol, c'est pas bon.
Non, l'espagnol, non, c'est pas bon. Le
grec ?
Le grec, exactement. Alors, du coup, moustache, ça vient du coup de la forme latine de mostacchio. Qui est resté en italien, mostacchio, ou mostacchia, je sais pas trop. Mais ça vient du mot grec mystax, qui veut dire la lèvre supérieure. Voilà.
Ok. Ah. Miska, mosca, mikema.
Oh là là.
Deuxième mot, chocolat.
Oh, ça c'est connu. Oui, c'est chocolat. Connu.
D'où vient le mot chocolat ?
C'est pas arabe ?
Non.
L'anglais ?
Non.
Chocolat ?
Oui.
Chocolat. C'est connu.
Attends. Où est-ce qu'on met du cacao ? Attends.
Ah, c'est peut-être espagnol, italien. Non,
ça passe par l'espagnol, ouais.
Ça passe par
portugais ?
Non.
C'est quoi, c'est africain ?
Non.
Non.
Colombien.
C'est dans cette
pré-colombien. Ouais. C'est maya, aztèque.
C'est ça. Ça vient d'une langue, du coup, c'est un mélange entre du maya et la langue des aztèques qu'on appelle le nahuatl. Et en fait, chocolat, ça veut dire eau amère. Puisque c'est fait à base de cacao. Et c'était une boisson qui était faite pour des cérémonies religieuses, qui était liée à une divinité. Bon, je ne prononcerai pas le nom, c'est trop compliqué. Il y a des X et des Q et des Z. Donc je ne dis pas le nom. Mais donc ça vient de ce mélange de maya et de nahuatl, et c'était prononcé chocloatl. Et après, en dérivant par l'espagnol et arrivant chez nous, ça a donné chocolat. Et on est passé du coup d'une boisson... cérémonie religieuse au petit déjeuner Nesquik.
Ah, rien à voir.
Truc de dingue.
Donc, rien à voir, absolument rien à voir. Le troisième, c'est le mot nénuphar.
Nénuphar.
Ça, c'est arabe.
Presque. Mais c'est dans la zone géographique, mais c'est pas arabe.
Ah merde.
Éthiopien ?
Non.
Égyptien ?
Non.
Assyrien ? Babylonien ?
tu y es presque.
Perse.
C'est Perse, exactement. Ouais, il faut... En fait, même si aujourd'hui dans l'orthographe il y a un PH, ce PH il n'existait pas, il a été rajouté dans les années 30. Avant, nénuphar, ça s'écrivait avec un F.
C'est pas vrai.
Et en fait, ça vient du persan nilnoufar, qui veut dire le lotus. Voilà.
D'accord.
Simplement.
Ok, truc de dingue.
Le nénuphar est finalement un lotus. Je ne comprends plus rien.
Ça, c'est les joies de la langue.
Les joies de la langue. Mais surtout que le PH a été rajouté très récemment. C'est... En fait.
Oui,
c'est même
c'est
pas 135.
En 1935, même, si tu veux.
Ah oui, d'accord.
Il y a même pas 135.
On a changé le F par le PH.
Bon.
Prochain mot. Épinard.
Ah bah ça y est, c'est bon.
Ça y est, c'est
ton
moment.
Moment. C'est ton moment.
C'est arabe ?
Ça vient de l'arabe, exactement. C'est arrivé par l'Espagne avant d'arriver... C'est
ah ouais ?
La première L'Espagne. Mention du mot nénuphar, c'est le 13e siècle.
Épinard.
Voilà quoi, épinard. J'ai dit quoi ?
Nénuphar.
Même moi, je veux l'en...
Je comprends plus rien.
Donc la première mention du mot épinard, c'est le 13e siècle. Ça vient du coup de l'arabe andalou, qui est repris du coup dans le latin médiéval spinacium, et donc qui vient de l'arabe isfinage.
Petite question comme ça à la volée, qui c'est qui aime les épinards autour de la table ?
Moi j'aime bien, j'en ai mangé il y a quelques semaines.
Ok, je crois que vous pouvez sortir du studio immédiatement.
Allez hop.
Non, mais il n'y a que toi qui n'aimes pas. Hein.
T'aimes ça,
ouais, moi j'adore ça.
Ouais. Okay, c'est moi, je m'en vais.
Allez, parce que je suis sûr qu'ils sont mal cuisinés, c'est pour ça, ils ont une boîte, ils les jettent dans l'eau.
Alors déjà, tu vas respecter la cuisine de ma mère, parce que...
Mille excuses.
Non, c'est juste que j'aime pas.
J'aime pas, si j'aime pas, c'est que j'aime pas.
J'aime pas.
Bon, après, les goûts, les couleurs.
Ouais.
Voilà.
3 contre 1.
Bref.
Le mot horloge.
Oh là là.
Horloge. Suisse.
Non.
Au hasard. horloge. Est-ce que déjà, ça s'écrivait avec un H à l'avant, à l'époque ? Ça, tu sais peut-être pas, merde.
On n'avait pas le même alphabet, c'était pas l'alphabet latin.
Ah, donc c'est cyrillique. Grec ?
Grec, ouais. C'est
un
dos européen,
c'est grec ?
C'est grec, ouais. Ça vient de l'ancien, du grec ancien, horlogion. Et en fait, hora, c'est l'heure. Lego, ça veut dire celui qui lit. Donc celui qui lit l'heure, l'horloge. Voilà,
ah,
tout
okay.
simplement.
On ne va pas confondre avec le dealer, qui lui dit l'heure, mais...
Enfin, oh là là,
oh là, là. Là.
Comment il s'appelait déjà le dieu Ah non, Chronos, rien à voir. Ok, oui, non, pardon.
Non,
allez,
non. Chronomètre.
Allez, ouais, et... chronomètre, mais pas... Oui, oui, oui.
Voilà.
Le tatouage, d'où vient le mot tatouage ?
Tatouage.
C'est tatou. Bah, c'est anglais, non ?
Ça vient de l'anglais, mais avant l'anglais, ça vient de quelque part.
Ah.
Nous, en France, on l'a repris du mot anglais tatou.
C'est anglo-saxon, donc c'est germain.
Je dirais suédois, scandinave.
Non. Ah.
Avant anglais ? Il y avait quoi avant les anglais ?
Alors, oubliez, c'est passé par la langue anglaise. Ah, en France, on le connaît parce que bah, on est proche de la langue anglaise, mais le mot anglais. Lui, il vient pas du tout d'anglais, d'Angleterre, pardon.
Ah, mais c'est français. Enfin, oui, je suis con, mais ça va pas. Non.
Se qualifier, allez, ciao.
Salut, hein. Merci.
Oh,
un tatouage, c'est quoi, français?
D'accord. Non, parce que je veux dire, dans le sens où ils ont repris, parce qu'il y a plein de mots comme ça que les Anglais ont repris.
Oui. Le mot français a été repris du mot anglais qui lui-même vient de quelque part.
Ah, d'accord, c'est l'inverse.
Okay, tatouage, je sais pas, c'est cyrillique, c'est. Non.
Italien.
Non, c'est pas européen.
C'est pas européen.
Même pas.
Ah, ouais. C'est arabe alors ?
Non.
Ça vient d'Asie.
Non.
Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mots de français qui
viennent d'Amérique. Du coup, je veux dire.
Ça vient d'Amérique.
C'est les Aztèques, les.
Non.
Pérou.
Les Incas ?
Non. Ça vient pas du continent.
Quoi ? Ah, mais ça vient des îles.
United States. Ça vient des îles, exactement. C'est le mot anglais tatou. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai pas
les États-Unis. Non, je t'ai pas relevé parce que bon.
Non, mais...
Ça vient pas du continent, ça vient des
les États-Unis. Let's go. Mettez-le dehors. Mettez-le dehors.
Pardon, bravo, excusez-moi.
Je tiens à dire que ce monsieur a fait une licence d'histoire.
Oui,
non, master,
en plus. Voilà.
Licence d'histoire.
Il a quelques cours de géographie en tête.
C'est compliqué.
Ouais, ils sont dans la tête.
Donc, la première attestation du mot tatouage en français, c'est 1778, qui vient du coup de l'anglais tatou et qui est ramené par James Cook, donc un célèbre
cuisinier.
Oui, on va dire ça comme ça. Donc, qui vient du mot tatou, qui vient d'une langue polynésienne. Ou de, il y a deux sources,
ah
soit
oui, bah
une langue polynésienne, soit
il a fait la même licence que moi,
soit Tahiti.
Mais c'est pas du tout l'Amérique du tout.
Bah,
c'est relié en Océanie.
Tahiti, c'est la même chose.
Tiens, tu viens avec moi, on va réviser un peu.
Let's go. Mais je suis parti sur la Guyane, donc non, rien à voir. Non,
ah oui,
c'est
à côté du Congo.
Oui, d'accord. C'est ça.
Ouais. Pas très loin de la Birmanie.
Ah, là où il y a de la neige,
L'université.
Voilà pourquoi j'ai fait histoire et pas géo.
Ouf.
Oh, les ninos.
Prochain mot, ardoise.
Ah,
ardoise.
Ça, c'est arabe.
Non.
Mais mec, mais sors.
Mais parce que normalement, il y a plein de mots français.
C'est 10% de la langue. 10% de la langue française vient de l'arabe, mais il n'y a pas que de l'arabe.
Ah, bah pardon.
La preuve.
Ardoise, ouais, ouais, de ouf.
Ardoise, cyrillique.
Non, ça n'a pas bougé géographiquement, mais c'est plutôt, juste ancien.
Bah, c'est grec.
Non.
Germanique.
Non.
Anglais.
Encore avant.
Ardoise.
Ardoise.
Les pays du Nord.
Nos ancêtres.
Ardosia.
Gaulois. Ça, donc c'est du gaulois.
C'est du gaulois.
Du celte.
Ah. Ça vient du celte. Le premier mot ardoise, lui, il apparaît au XIIe siècle, mais ça vient d'un mot gaulois, Ariticia. En fait, qui aurait donné du coup en latin Ardésia. Et en fait, Ardésia, ça a donné
Alésia.
Le nom de la zone où on trouvait cette pierre. Ardou, donc élevé. Et du coup, ça a donné Ardou-Héna, les Ardennes, aujourd'hui en France.
Oh, d'accord. Ah,
donc Ardoise-Ardennes.
Parce que c'était la zone là où on trouvait le plus.
Fallait y penser, hein.
Aujourd'hui.
Là, ils ont la même racine. Ardennes et Ardoise ont à la même racine. Cidre.
Bah de Bretagne.
Oh, Bretagne.
Normandie, s'il vous plaît.
Ni l'un ni l'autre.
Bah, les Anglais ?
Non.
Du cidre. Qui c'est qui boit du cidre ?
C'est ton moment, Simon.
C'est vrai ? Les Arabes ?
Let's go !
Ouais !
Non, c'est. En fait, il a beaucoup de. Il a une origine. C'est la zone géographique.
Oui, enfin, je dis.
Ça vient du Moyen-Orient, mais c'est encore plus ancien.
La peur du Gauthier. Bon. Hein.
Oh là là.
Simon qui gueule les Arabes.
C'est vrai, la manière dont je le dis, pardon, parce que... Oui, non, pardon.
Bon, bref.
Donc, c'est attesté sous la forme cidre avec un S en français, du coup, dès le XIIe siècle, mais ça vient de plus loin, puisque ça vient d'un mot latin, biblique d'abord, qui désignait toutes les boissons alcoolisées, donc cicera, qui est, lui, pris du grec sikera, qui, lui, vient, du coup, de la traduction, de l'Ancien Testament en grec, donc on remonte aux langues sémitiques, et là ça a donné sécar, les boissons fermentées, et du coup de sécar, qui lui-même vient du mésopotamien, sicarou, qui veut dire bière.
Okay.
Donc du sicarou mésopotamien, bière, au sécar hébreu arabe, et après sicera latin, ça a donné cidre.
Eh ben,
mais tout à l'heure je disais langue arabe, mais en fait est-ce qu'on a le pays précis ou non? C'est plus
non, c'est une langue, parce qu'il y a langue... pas, en fait il y a pas de zone géographique, tu peux pas limiter une langue géographiquement.
Ouais, ouais,
c'est compliqué aujourd'hui, plus ou moins, mais à l'époque bon bah comme c'est des empires qui bougent tout le temps,
et puis avec un nombre incalculable de dialectes aussi,
c'est
hein,
ça. Oui,
on en a pas parlé,
y a
des patois, je t'explique pas.
Alors pyjama, d'où vient le mot pyjama?
Allemand?
Non.
Anglais ?
Non.
Italien ?
Non.
Bah, italien, toi.
C'est rapporté par des Anglais, mais ça vient pas de l'anglais.
Oh, ça doit être du côté de l'Amérique latine, ça.
Ouais, on va dire ça comme ça. Mais l'Amérique latine de l'autre côté, du coup, selon la géographie.
Ah oui.
Bah, l'Asie, alors.
L'autre côté.
Ouais, l'Asie. Mais là, pour le coup, on a vraiment un pays.
Chine.
Inde ?
C'est l'Inde, exactement.
Mais non.
Ça vient de l'Indie.
C'est ouf.
Wow. C'est rapporté par les Anglais au XVIIe siècle. Et en fait, les hindous, les indiens, je sais pas trop comment.
Les indiens.
Ouais, les indiens, parce qu'hindous, je crois que c'est... Ouais,
les hindous, c'est la religion hindouiste.
C'est ça. Ils avaient une tenue ample qui s'appelait le paejama. Mmh. Et en fait, ce paejama, c'est composé de deux mots, donc jama, vêtement, et paille, la jambe, ça a été repris parce qu'en Angleterre, on avait l'habitude de dormir avec des chemises de nuit. On a commencé à mettre des pantalons pour dormir, et donc pantalon plus chemise de nuit, ça a donné le pyjama, celui qu'on connaît
maintenant,
celui des séries, quoi, vraiment l'ensemble.
Ouais, rayé.
C'est ça, donc pyjama vient de l'Inde.
Je suis en train de tilter un truc, mais pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh, il y a les Ojama, et si ça se trouve, Jama, ça veut dire un truc. Jama, si ça se trouve, ça veut vraiment dire quelque chose.
Non, rien à voir.
Mais tu me dis non, mais t'en sais rien.
Oh, c'est la oui, forme j'ai regardé de respect, et Jama, ça veut dire autre chose.
J'ai regardé la petite maison dans la prairie, je suis sûr qu'il y a un lien.
Ouais, pareil.
Parce que les Jama...
La dernière fois, dans le dîner presque parfait, il y avait aussi...
il est déjà 48. J'en fais un dernier.
Un dernier.
J'en ai un aussi après.
Allez, le sirop.
Le sirop. Sirop. L'égyptien.
Tu y es presque.
Ouais, je vois bien.
Arabe.
Oui, ça vient de l'arabe.
Voilà.
Ça vient de l'arabe, ça vient du mot charab, qui veut dire boisson. Et en fait, c'est rapporté en France et en Occident de manière générale pendant les croisades. Ça désignait deux choses. À la fois, du coup, une liqueur ou un sirop de fruits, fait à base de fruits, et une potion ou un remède. Et en fait, on a gardé aujourd'hui les deux sens.
Bah oui.
Un sirop, c'est toujours une liqueur ou un sirop de fruits.
De grenadine, oui.
De grenadine, par exemple. Ou alors, le sirop sucré qu'on va prendre quand on est malade.
Fou. C'est truc de dingue.
Voilà. Il y en avait d'autres. Il y avait Zénith, qui vient de l'arabe aussi, de
Semt,
qui a donné aussi Azimut.
Abricot, jupe.
Avocat, oui, les mots arabes.
Ouais.
Oui, oui.
Abricot, jupe, etc. Tout ce qui est fruits. Bon,
avocat, ça vient de... qui m'a perturbé.
Pardon. Oui.
L'avocat, ça vient de la même langue des Aztèques, donc le l'Atlouatl. Et c'était... il y a l'avocat, le métier, qui, lui, vient du latin. Et l'avocat, le fruit, qui vient, du coup, des Aztèques. Le cidre, j'en ai parlé. La ruche, qui vient du gaulois. Le tatouage, on en a parlé, l'horloge, le crâne qui vient du grec, etc. etc.
Donc là, pour revenir sur l'avocat, donc du coup, c'est un pur hasard qu'on ait
aujourd'hui,
le mot.
Deux mots, oui. Alors en fait, pur hasard, non, parce que c'était déjà repris par les Espagnols, puisque le métier, ça vient du latin advocatus, donc appelé, convoqué.
Oui.
Et en espagnol, du coup, c'est avocado.
Oui.
Et le mot... pour le fruit, c'est abogadol. Et abogadol, ça est déformé. En fait, ça vient de aguacate, qui lui vient de awaclatl, avec beaucoup de T et de L, fruit de l'avocatier, donc rapporté du Mexique, qui a donné aguacate, qui s'est transformé en abogado. Et de abogado à avocado, ils ont fait le rapprochement. Pourquoi faire deux mots avec les mêmes lettres? Et on a gardé ça en français.
Ok, oui, c'est juste nous, en fait, finalement, qui avons contracté les deux. Quoi.
Ouais.
Mais là, en espagnol, il y a deux mots pour deux choses différentes.
Textuellement, ouais, il y a deux mots, mais aujourd'hui, plus personne fait les deux mots.
Ah oui.
Tout le monde utilise avocado, quoi.
Ok. Bon bah écoutez.
Comme en France.
Comme en France, donc.
Voilà.
Eh bien, très bien. Bah, merci beaucoup, Salouane. C'était très instructif. On a voyagé
en Océanie,
en Afrique.
C'est vrai qu'on était à la fois en Polynésie, à la fois à Tahiti. Et ça, c'était incroyable.
Et ça, d'un seul coup. Ouais.
Qui sont en Amérique, rappelons-le.
C'est fort.
Les Caraïbes.
Bah, la Polynésie d'Amérique, quoi.
Ouais,
c'est bien connu.
Côté des États-Unis de Simon.
Des États-Unis, mais qui ne sont pas dans le continent américain.
Qui ne sont pas dans le continent, voilà. Évidemment. C'est une île.
Rappelons.
Le mot hasard aussi, ça vient de l'arabe.
Du peuple des parabes.
Tout comme le mot pastèque et raquette. Oui. Voilà, je pourrais continuer.
Ouais. Chouette. Eh bien, nous continuerons plus tard. Et d'abord, messieurs, dames, on va se faire une petite pause musicale avant de nous quitter. Hein, parce que ça, voilà, il est déjà 51. On va s'écouter Time Bandit de Turbo Knight. C'est parti, c'est maintenant. C'est
jeune créateur peu connu.
Oui, très gentil au demeurant, je crois.
Tout à fait.
On en reparle après. C'est tout de suite, c'est maintenant.
La percée d'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Nous sommes de retour sur la percée d'histoire pour ses dernières minutes. Ça y est, c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. Ben oui, je sais, mais bon, c'est comme ça. Nous nous retrouvons dans 2 semaines, après les vacances.
Ah oui. Oui.
Et oui, donc pas d'émission mardi prochain.
Non.
Pendant ce temps-là, nous, pendant les vacances, on vous prépare des petites choses.
Oui.
Messieurs, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'être venu.
Merci d'animer.
Un plaisir, toujours.
C'était sympa, c'est passé vite.
Comme d'habitude.
Et puis écoutez, on se dit à plus tard. À dans 2 semaines.
Et puis surtout, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux,
bien
sur Instagram,
sûr.
Comme on disait tout à l'heure. On essaye en tout cas de poster régulièrement sur Facebook également. La percée de l'histoire, tout simplement. Vous trouverez.
Percée avec un S.
À quelques centaines d'abonnés, voilà, modestement, évidemment.
Avec un documentaire, bien sûr, toujours disponible sur YouTube.
Oui.
La rencontre de Lucas Arbogast.
Voilà, vous ne l'avez pas encore vu, nous avons une chaîne YouTube.
Eh oui.
La percée de l'histoire, donc. Nous avions eu la chance de rencontrer Luc Arbogast, un célèbre chanteur. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. En attendant, je vous dis au revoir. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.
Bonnes vacances.
Et pour les autres, courage, on est avec vous. Salut.
Salut.
Allez, ciao.
Non, c'est rien. C'est une révolution.
Je vous ai compris. I have a dream.
Libération.
Entre ici, Jean Moulin.